Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel.
RFI Midi.
Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Avec ce large dossier consacré à la convention démocrate sur mesure pour le sacre de Kamala Harris aux États-Unis. On est à Chicago, c'est là que se déroule cet événement, l'occasion pour nous de nous interroger sur l'importance de cette convention et de faire un point sur les sondages pour la présidentielle américaine de novembre. L'actualité des Outre-mer avec Benoît Ferrand et à la une, on apprend aujourd'hui que l'exposition au chlordécone pourrait favoriser le développement de pathologies cardiaques, Benoît.
C'est en tout cas ce qu'affirment des scientifiques canadiens dans une publication du 14 août dernier. Précision à suivre tout à l'heure avec nos confrères de la Première Martinique.
On vous appelle dans 20 minutes. À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et d'abord le journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et la une, les États-Unis, à moins de 3 mois des élections, les démocrates sont à Chicago.
Oui, Chicago dans l'Illinois accueille jusqu'à jeudi la convention du Parti démocrate qui verra Joe Biden passer le flambeau à Kamala Harris. Cette convention va investir formellement le ticket Harris, Tim Walz. La vice-présidente est en bonne position dans les sondages. Il reste à convaincre les électeurs ruraux et parmi eux les agriculteurs. Camille Ruiz.
Plus de 6 agriculteurs sur 10 ont voté pour Donald Trump en 2020. Un vrai défi pour Kamala Harris. Pourtant, certains syndicalistes sont séduits. Hatchfager est vice-présidente de l'Union des agriculteurs du Minnesota.
Harris a fait partie de l'administration Biden qui a réalisé des investissements historiques dans les zones rurales des États-Unis, surtout dans le domaine du climat. Elle a aussi uniformisé les règles du jeu pour les agriculteurs avec une loi contre les monopoles.
Mais Kamala Harris a un autre atout de taille, selon Hatchfager, Tim Walz, son colistier. Issu de la classe moyenne, le gouverneur du Minnesota est un véritable produit de la campagne du Nebraska. Anne vivait dans sa circonscription quand il était au Congrès et a travaillé avec lui.
Il est bipartisan, mais il n'a pas eu peur de mener un programme progressiste dans le Minnesota. Je pense que les priorités sont d'avoir une loi agricole complète et de veiller à ce qu'elle protège les agriculteurs et les éleveurs de tous les États-Unis.
Même si le syndicat d'Hatchfager ne soutient pas officiellement Kamala Harris, la plateforme la plus importante du pays, l'Union des travailleurs agricoles, soutient sa candidature face à Trump, une dynamique qui reste à confirmer dans les urnes.
Camille Ruiz, dans son discours ce soir à Chicago, Joe Biden devrait mettre en avant les réussites de son mandat économique notamment et aussi plaider pour que sa vice-présidente prenne sa succession.
On reste aux États-Unis où un procès fait grand bruit, procès qui oppose un détenu et plusieurs ONG au système pénitentiaire.
Oui, les plaidoiries finales doivent commencer actuellement devant un juge fédéral du tribunal d'Austin au Texas. Le Texas connaît de plus en plus souvent des vagues de chaleur extrême, un calvaire pour beaucoup, notamment quelques 85 000 prisonniers. Environ 2 prisons sur 3 de cet état du Sud sont dépourvues d'aide d'air conditionné. La plainte a pour objet d'obliger l'État à climatiser l'ensemble de ses centres de détention et ainsi sauver des vies. Stéphanie Schuller.
Les prisonniers du Texas sont cuits à mort. Par ces mots débute la plainte de Bernie Teddy qui purge une peine de 99 ans de détention pour meurtre. L'an dernier, Bernie Teddy a subi un accident cardiovasculaire alors que la température dans sa cellule dépassait les 43 degrés. Devant le juge, il a raconté cette chaleur si implacable que les détenus font tout pour y échapper. Inonder la cellule d'eau des toilettes jusqu'aux tentatives de suicide pour être transférés dans l'unité de soins climatisé. Des conditions de détention qui s'apparentent à de la torture, soutiennent les plaignants et qui parfois mènent à la mort. En moyenne, 14 prisonniers meurent chaque année au Texas de la chaleur extrême dans leurs cellules, affirment les ONG. Les décès longtemps réfutés par le système pénitentiaire, mais son directeur a finalement admis, au cours du procès, 3 morts l'an dernier. L'un d'eux avait 32 ans. Avant de mourir, il avait demandé à plusieurs reprises de l'eau, qui n'est jamais arrivée. Au moment de décès, la température de son corps affichait 41,9 degrés.
Anthony Blinken est en Israël, son 9e voyage dans la région depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain demande aux parties en guerre de ne pas faire dérailler les négociations en vue d'un cessez-le-feu, évoquant un moment décisif pour parvenir à un accord. Il l'a dit ce matin lors d'un entretien à Tel Aviv avec le président israélien Yitzhak Herzog.
Alors que l'Ukraine mène une incursion militaire sans précédent en Russie, l'armée russe, elle, continue d'avancer dans le Donbass.
Oui, cette armée vient de revendiquer la prise d'un nouveau village près de Pokrovsk, une ville considérée comme un important corridor logistique. Explication de l'historien Guillaume Lascaux-Jarias, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne.
Un corridor logistique permet en fait trois choses. Il permet de vous positionner, de vous ravitailler et d'avoir suffisamment d'options pour ensuite aller beaucoup plus loin et plus en profondeur. Et Pokrovsk, c'est un peu le cas. Et puis surtout, on arrive en réalité aux limites des fortifications qui ont été établies depuis 2014. De les voir tomber les unes après les autres signifie que derrière, il n'y a plus rien. Eh bien, vous pouvez aller vite, profond, loin. Et si vous avez la logistique qui suit, vous créez en fait une forme de nécessité pour votre adversaire de jeter quasiment toutes ses forces dans la bataille essayer de s'y opposer, ce qui est extrêmement compliqué. On le voit bien avec les Russes qui ont été surpris, mais ça pourrait arriver tout autant aux Ukrainiens, dont on sait que leur grosse difficulté est d'avoir, eux, des forces suffisamment nombreuses pour résister à ce type d'assaut.
Guillaume Lascaux-Jarias avec Marine Lebeg. Un nouvel accrochage militaire en mer de Chine méridionale. Des navires battant pavillon chinois et philippin sont entrés en collision. Les deux pays se rejettent mutuellement la responsabilité de l'incident. Pékin reçoit la visite du président Tô Lâm, le nouvel homme fort du Vietnam. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis sa nomination à la tête du parti communiste de son pays. Au menu de cette visite, des entretiens avec son homologue Xi Jinping, une parade militaire place Tiananmen et la signature de documents de coopération.
Dans l'actualité économique, Gilles Moreau, c'est besoin en eau des data centers.
Les géants du numérique dépensent des dizaines de milliards de dollars pour construire des data centers, des centres de stockage de données aux États-Unis, en Chine, en Europe ou bien encore en Asie du Sud-Est. L'objectif est de répondre aux besoins de l'intelligence artificielle générative qui a besoin d'énormément de données pour fonctionner. Mais les data centers sont très gourmands en énergie, on le savait déjà, et on le savait moins aussi en eau. Explication Justine Fontaine.
Prenons l'exemple de la Virginie aux États-Unis. C'est l'endroit au monde qui concentre le plus de centres de stockage de données. Et entre 2019 et 2023, la consommation d'eau des data centers dans cet État américain a augmenté de plus de 60% d'après les chiffres des fournisseurs d'eau obtenus par le Financial Times. Cette eau sert à refroidir les centres de stockage de données. Et à l'échelle du pays, la consommation d'eau des data centers américains équivalait l'an dernier à un tiers de toute celle d'une ville comme Londres sur la même période, d'après le cabinet de conseil indépendant Digital Infra. Les chiffres devraient continuer de grimper, puisque les géants du numérique construisent des data centers un peu partout dans le monde, y compris dans des pays et des régions déjà touchés par la sécheresse. Amazon, par exemple, prévoit d'investir 150 milliards de dollars sur 15 ans pour des centres de données. Pour compenser leur consommation d'eau, Microsoft, Google ou encore Meta promettent d'investir contre les fuites d'eau ou encore de financer des projets visant à restaurer des zones naturelles humides.
C'était Justine Fontaine. Enfin, après la mort d'Alain Delon, la France prépare ses adieux à cette légende du cinéma. Ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon, vont devoir choisir la forme des obsèques, dans l'intimité ou non. Alain Delon souhaitait être enterré chez lui, près de ses chiens, dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret, où il s'est éteint hier à l'âge de 88 ans.
Et c'est ainsi que se referme le journal de Gilles Moreau. Merci Gilles, on vous retrouve dans 2 heures pour un prochain point d'information. Pour l'heure, il est 15h09 à Paris, 9h09 à Chicago.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques. Stéphane Genest.
Elle commence aujourd'hui à Chicago. La convention nationale du Parti démocrate américain, elle va durer 4 jours. Événement marquant de la vie politique américaine qui va servir non seulement à introniser officiellement Kamala Harris en tant que candidate à la présidence, mais aussi à galvaniser le parti pour les derniers mois de campagne. Et c'est à Chicago, justement, que l'on vous retrouve, Guillaume Nodin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial pour cette convention. Alors Guillaume, c'est un rendez-vous traditionnel, mais beaucoup moins que d'habitude parce qu'il va ressembler à quelque chose qui n'était pas du tout prévu il y a encore un mois.
Oui, il y a encore un mois, Joe Biden était le candidat et puis sous la pression des élus de son parti, inquiets pour leur propre réélection, il a à contre-cœur laissé la place à sa vice-présidente Kamala Harris. Cela a donné un nouvel espoir au camp démocrate. Elle a ensuite choisi son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Il forme un ticket complémentaire. Elle, la Californienne d'origine à la fois jamaïcaine et indienne, et lui, l'homme blanc du Midwest au franc-parler qui lui permet de toucher un électorat plus lointain pour elle. Tout est déjà acté. Alors une convention, c'est un exercice convenu, il n'y a pas de surprise à attendre, un exercice qui permet d'officialiser une investiture, de créer de l'enthousiasme, mais là, ce sera un petit peu moins convenu que d'habitude quand même.
Oui, parce que là, Guillaume Nodin, en fait, il s'agit de prolonger cet enthousiasme.
Oui, parce que c'est vrai que l'entrée en campagne a été réussie. Une fois constitué, le ticket est parti sillonner les États clés, ceux qui peuvent faire basculer la majorité des grands électeurs au mois de novembre. Ils ont parlé devant des foules nombreuses et enthousiastes. Les contributions financières à la campagne sont très importantes. Les volontaires qui restaient chez eux se font à nouveau connaître. Les sondages sont bien plus favorables que ceux de Joe Biden. Bref, il y a clairement un souffle qu'il faut prolonger, entretenir. Il y a de la joie et de l'espoir. C'est d'ailleurs ces mots que des militants démocrates se sont amusés à projeté hier soir sur la façade de l'immeuble siglé Trump, ici à Chicago, car après avoir fait la course en tête, l'ancien président a du mal à adapter sa campagne à cette nouvelle donne. Ses discours déclinistes et sombres sont moins convaincants depuis le retrait de Joe Biden, dont il s'amusait à dénigrer l'âge et l'acuité intellectuelle. Et maintenant, c'est lui qui a l'air vieux.
Et pourtant, Joe Biden sera bien là, à Chicago.
C'est vrai, il aurait pu se vexer et laisser le parti se débrouiller. Finalement, il parlera ce soir, une soirée conçue comme un hommage à son héritage, à son influence et à sa carrière politique de plus de 5 décennies. Il s'agit de le remercier d'avoir pris une décision difficile, mais qui a permis de relancer la course électorale. Les gens que j'ai croisés s'attendent à des ovations, de l'émotion et même des larmes ce soir. Il s'agit d'éviter les fausses notes entre démocrates après une période difficile. On sait notamment que Jill Biden va aussi parler, ainsi qu'Hillary Clinton. Jill Biden qui souhaitait que son mari reste candidat, mais qui souhaitait aussi qu'il soit traité avec respect. C'est ce que le Parti démocrate va s'efforcer de faire ce soir.
Et ça n'a pas toujours été facile pour les démocrates à Chicago, Guillaume Nodin.
Alors, il y a quand même de bons souvenirs, principalement la victoire de Barack Obama célébrée ici chez lui en 2008. Mais Chicago, pour les démocrates, c'est aussi le souvenir de la convention désastreuse de 1968. Quelques mois plus tôt, Lyndon Johnson avait renoncé à se représenter. La convention avait été le théâtre de manœuvres politiciennes d'arrière-salle qui avaient abouti à la nomination du vice-président Hubert Humphrey, balayé ensuite par Richard Nixon en novembre. Tout ça s'est déroulé alors que des manifestations anti-guerre du Vietnam étaient violemment réprimées par la police à l'extérieur.
Et des manifestations, il va y en avoir cette année devant la convention, Guillaume.
Oui, une coalition d'organisations s'est constituée principalement pour protester contre la guerre à Gaza et le soutien américain et donc démocrate à Israël. C'est prévu aujourd'hui et jeudi, le jour du discours de Kamala Harris. Les organisateurs espèrent un rassemblement qui se compte en dizaines de milliers de personnes dans des conditions et un périmètre très strictement encadré par la police, trop strictement. Selon les organisateurs qui dénoncent une atteinte à leur liberté d'expression.
Guillaume Nodin en direct de Chicago pour RFI où il est 8h13 et on l'a très bien compris, hein, cette convention démocrate est un événement. Bonjour Marine Le Bègue.
Bonjour Stéphane.
Puisque du côté de la presse américaine, évidemment, il y a un nom à la une des journaux, pas de surprise, celui de Kamala Harris.
Oui, résumé en quelques titres, la prudente Kamala Harris est désormais la force motrice des démocrates, assure le Wall Street Journal. Le New York Times et USA Today tombent d'accord sur la mission de la candidate, se présenter à nouveau, vendre son histoire, car de Kamala Harris, estime le New York Times, on ne connaît pour l'instant que son nom. En une du Washington Post, une photo en noir et blanc. Elle date de 1968 et rappelle les souvenirs de la convention chaotique de cette année-là, comme l'a rappelé notre envoyé spécial.
Effectivement, Guillaume Nodin nous le rappelait. L'idée donc de réussir cette convention démocrate est évidemment dans toutes les têtes des responsables du parti, justement. On y revient en longueur avec vous, Mathieu Gaillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études chez Ipsos. Vous allez publier le 4 octobre prochain « Les États-Unis au bord de la guerre civile ». Alors Mathieu Gaillard, la grande ambition de cette convention, c'est de faire adhérer au récit que le plus grand nombre soit finalement derrière le ticket Harris-Walz.
Oui, tout à fait. Ben, il y a deux grands défis en fait pour les démocrates lors de cette convention, et c'est en fait les défis que doivent relever tous les partis lors de chaque convention. Le premier, c'est effectivement de montrer l'unité du parti derrière son candidat. Et c'est vrai que c'est pas forcément si évident que ça. Kamala Harris, voilà, elle vient de recevoir l'investiture du parti. En tout cas, il y a quelques jours, et c'est relativement inattendu évidemment après le retrait de Joe Biden. Et puis il faut donc mobiliser la base, et puis il faut en plus, au-delà de ça, il faut aussi venir séduire l'électorat qui peut hésiter entre Kamala Harris et Donald Trump, en appuyant vraiment sur les thématiques qui vont intéresser ces électorats. Donc c'est ça que le parti va essayer de faire pendant ces 4 jours.
En termes de sondage, cette convention, elle peut avoir un impact, qu'il soit d'ailleurs positif comme négatif.
Oui, traditionnellement, les conventions, elles ont un léger impact parce qu'effectivement, tout simplement, pendant 4 jours, on ne parle que du parti qui tient sa convention. On en parle évidemment sur un ton positif. Voilà, tous les dirigeants du parti vont parler, vont s'adresser d'ailleurs à des électorats qui peuvent être un petit peu différents en termes démographiques ou en termes idéologiques. Et donc, généralement, ça a un impact, mais après, l'impact, il n'est pas très durable.
Enfin, oui, c'est temporaire.
Il faut croire que, oui, voilà, exactement. D'ici 2 ou 3 semaines, tout ça sera potentiellement oublié. Et d'ailleurs, c'est à partir de début septembre que les sondages deviendront vraiment intéressants pour ce qui va se passer début novembre.
Oui, là, on est dans une couverture plutôt médiatique positive pour Kamala Harris. Vous évoquiez les sondages, justement, Mathieu Gallard. Les derniers sondages donnent Kamala Harris devant Donald Trump dans certains États-clés. D'où viennent ces voix ? Est-ce que ce sont des indépendants à tendance démocrate qui se sont finalement laissés convaincre, ou des indépendants à tendance républicaine ?
Ce qui s'est passé, c'est globalement deux dynamiques qui finalement sont assez proches. D'un côté, vous avez effectivement une partie de l'électorat démocrate qui était quand même un petit peu sceptique vis-à-vis de Joe Biden depuis quelques semaines, qui du coup, face à la mise en avant de Kamala Harris et face à une campagne qui se déroule bien pour elle, qui est relativement enthousiasmante, face à la nomination aussi d'un vice-président qui a été bien perçu, est revenu un peu au bercail démocrate. Ceux-là, ils hésitaient un peu entre l'abstention et le vote pour Biden. Maintenant, ils vont voter pour Kamala Harris. Et puis, on a une partie de l'électorat hésitant, l'électorat vraiment qui peut pencher chez les démocrates comme chez les républicains, qui est un électorat désormais très réduit. Il n'y a plus beaucoup d'hésitants aux États-Unis, mais voilà, ça représente environ 5% de l'électorat. Là encore, elle a été en chercher quelques-uns grâce à ce début de campagne plutôt réussi. Donc la grande question, c'est de savoir si elle va réussir à maintenir cette très légère avance sur Donald Trump jusqu'à début novembre. C'est une fois de plus loin d'être certain. Voilà, là on est sur une dynamique positive pour elle, mais les choses peuvent encore largement changer. On a vu combien il y avait eu des événements qui ont modifié le cours de la campagne depuis quelques semaines.
Et vous le savez mieux que personne, vous êtes directeur d'études chez Ipsos, hein, je le rappelle, Mathieu Gallard, les sondages, il y a forcément des marges d'erreur. Là, dans ces cas-là où Kamala Harris est devant Donald Trump, ou du moins au coude à coude, on s'approche quand même de cette marge d'erreur. Est-ce que statistiquement, c'est possible cette victoire de Kamala Harris dans ces états clés, ces états pivots que l'on évoque ?
Oui, c'est tout à fait possible. Quand elle est en tête, malgré tout, dans la plupart des sondages et dans la plupart des états-clés, on peut dire qu'elle est, à ce stade, plutôt favorite. Mais effectivement, ça ne veut pas du tout dire que Donald Trump a perdu. Il est tout à fait possible que l'opinion publique et donc que les sondages évoluent. Et puis, comme vous le disiez, il y a cette question de la marge d'erreur. Il n'est pas totalement impossible que certains sondages soient que la réalité soit un petit peu plus proche que ce qu'on mesure dans les sondages, parce que effectivement, aujourd'hui, voilà, vous avez une Kamala Harris qui bénéficie d'une couverture médiatique très positive. Au contraire, un Donald Trump qui quand même souffre maintenant. C'est lui qui souffre finalement d'être le candidat le plus âgé. On voit qu'il est quand même plus en difficulté, que son discours, il est quand même un petit peu usé désormais. On a aussi la question de son colistier, J.D. Vance, qui fait pas mal de bourdes. Tout ça fait que elle est plutôt dans une dynamique positive, mais que les choses peuvent encore largement évoluer.
On évoquait ces états clés, hein, je les précise, c'est l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie également. Tim Walz, son colistier, ils sont plutôt à gauche tous les deux. C'est trop pour certains, il faudrait peut-être recentrer leur position.
Mais il y a deux dynamiques vraiment qui sont importantes dans une élection américaine. La première dynamique, et c'est pour ça que Tim Walz a été sélectionné, c'est vraiment de dynamiser la base électorale. C'est-à-dire quand même les démocrates traditionnels qui sont plutôt ancrés à gauche. Et là, c'est plutôt réussi avec Tim Walz. De façon, voilà, cet électorat, on sait qu'il était un petit peu hésitant vis-à-vis de Joe Biden. Une partie d'entre eux était aussi hésitant vis-à-vis, par exemple, du conflit à Gaza et des positions de l'administration Biden. Mais malgré tout, la plupart des observateurs pensaient qu'ils allaient finir par voter pour le candidat démocrate, quel qu'il soit, parce qu'en face, il y avait Trump, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est effectivement, malgré tout, cet électorat indépendant, centriste, qui là peut être un petit peu échaudé, mais qui malgré tout, là encore, va peut-être se décider avant tout en fonction de la crédibilité des acteurs plutôt que de leur positionnement idéologique. Et de ce point de vue-là, le choix de Tim Walz par Kamala Harris a été plutôt bien accueilli, parce que même s'il est plutôt à gauche, c'est un élu d'un État plutôt rural, d'un État du Midwest, c'est un élu qui est bien implanté depuis longtemps, qui connaît ses dossiers, et donc cet électorat peut se dire qu'il est quand même plus crédible et plus solide pour ce rôle de vice-président que le colistier de Donald Trump, qui lui n'a que 2 ans d'expérience et finalement voilà, n'a pas une telle maîtrise des dossiers. Donc ça peut être quelque chose d'important pour récupérer l'électorat indépendant.
Il y a aussi un point essentiel, c'est le programme de Kamala Harris. Ce matin sur RFI, on évoquait le flou de son programme, on ne sait pas grand-chose, va maintenant falloir convaincre avec ça, mettre fin à ses ambiguïtés pour consolider sa base électorale.
Oui, effectivement. Alors le programme dans les élections américaines, traditionnellement, c'est vrai que ça joue un rôle qui est relativement limité. C'est particulièrement le cas depuis 2016, parce qu'on avait bien vu en 2016, par exemple, que Hillary Clinton essayait de mettre en avant certains éléments de son programme sur les droits des femmes, sur la santé mentale, sur le système de santé, et qui n'était pas du tout repris dans les médias, parce que voilà, c'était avant tout une focalisation sur Donald Trump, ses excès, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension qui va être importante. Il va falloir que Kamala Harris et que les démocrates aussi, lors de cette convention, dévoilent et mettent en avant les grandes lignes de leur programme pour tenter de séduire, là encore, l'électorat à la fois de gauche et aussi l'électorat centriste hésitant. Et ça sera aussi important, notamment lors du ou des débats télévisés qui auront probablement lieu en septembre et octobre, pour pouvoir peut-être contrer Trump et paraître, là encore, plus présidentiel que l'ancien président.
Effectivement, la convention commence aujourd'hui. Kamala Harris qui va jouer beaucoup, tout va s'accélérer. Elle va devoir présenter son programme et le débat télévisé, effectivement, ce sera aux alentours du 10 septembre face à Donald Trump. Merci beaucoup, Mathieu Gallard, d'avoir accepté l'invitation des RFI. Je rappelle que vous êtes directeur d'études chez Ipsos et que vous allez publier « Les États-Unis au bord de la guerre civile ». Cette question, ce livre qui va être publié le 4 octobre aux éditions de l'Aube.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À Port-au-Prince, où il est tout pile 9h22. Le reste de l'actualité sur le continent américain, Marine Le Bègue. C'est donc en Haïti où, selon le média Loop News, la DIE, la Direction de l'Immigration et de l'Émigration, aurait annoncé l'arrêt de la production de nouveaux passeports.
Oui, et cette décision prend effet ce lundi, Stéphane. En cause, un problème dans le système d'impression des passeports. Et de fil en aiguille, c'est tout le processus de livraison qui a pris du retard, raconte Loop News. Résultat, plus de 10 000 documents d'identité seraient bloqués par ce problème technique. Alors, selon le média, une équipe a été spécialement mise en place pour le résoudre, mais pour l'instant, personne ne sait quand la production de passeports reprendra. Les services concernés demandent aux Haïtiens d'être patients.
Ce que l'entend là, Marine, c'est l'hymne national du Venezuela. Pourtant, c'est à Madrid qu'il a été entendu ce week-end, mais également au Canada, en Brésil, en Autriche, dans le monde entier. Finalement, la communauté vénézuélienne s'est réunie samedi pour protester contre la réélection de Nicolas Maduro.
Exactement, Stéphane. Des millions de Vénézuéliens sont descendus dans la rue en réponse à l'appel lancé par l'opposante Maria Corina Machado. Les copies des procès-verbaux de leur bureau de vote en main, ils ont exigé une publication des résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet dernier, publication dont le Conseil national électoral est en charge, mais qu'il n'a toujours pas fait, prétextant un piratage informatique.
Et finalement, Marine Le Bègue, ces résultats devraient être bientôt rendus publics.
Oui, hier, la Cour suprême de justice du Venezuela syndicats, a commencé le processus de validation des votes, nous apprend El Nacional. Pour cela, les votes papiers vont être comparés avec les votes électroniques, explique le quotidien. L'objectif, vérifier que les deux types de votes coïncident bien et si c'est le cas, valider les résultats donnés par le Conseil national électoral qui a proclamé Nicolas Maduro gagnant. C'est d'ailleurs lui, Nicolas Maduro, qui a demandé à la Cour suprême de justice de faire ces vérifications, un processus que l'opposition rejette car cette mission ne serait pas du ressort de cette instance, qui plus est acquise à Nicolas Maduro.
L'opposition, Marine, qui s'est exprimée dans les colonnes du journal espagnol El País.
Ouais, le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, a pris la plume pour insister sur le droit des Vénézuéliens à choisir leur avenir et dénoncer, je cite, un assaut violent des forces répressives au service de ceux qui ignorent l'appel de la rue et le résultat des urnes. Le candidat renvoie vers le site web de l'opposition qui a fait son propre comptage des votes de l'élection. Selon ses résultats, Edmundo González Urrutia serait arrivé premier avec 67% des voix contre Nicolas Maduro qui n'en aurait recueilli que 30%.
Toute la presse avec Marine Le Bègue et presque vous retrouvez sur notre site RFI.fr, rubrique Le Journal d'Haïti et des Amériques.
Le Journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première et La Une, on apprend aujourd'hui que l'exposition au chlordécone pourrait favoriser le développement de pathologies cardiaques, Benoît Ferrand.
Eh oui, on connaissait déjà le probable lien de causalité entre le chlordécone et l'apparition de certains cancers. On apprend aujourd'hui qu'il pourrait aussi, l'exposition à ce pesticide, pourrait aussi favoriser le développement de pathologies cardiaques. C'est en tout cas ce qu'affirment des scientifiques du Canada dans une publication datée du 14 août dernier. Ingrid Sosseïsma de La Première Martinique.
Boire de l'eau potable empoisonnée au chlordécone pendant plusieurs années favorise l'apparition des troubles du rythme cardiaque. C'est ce qu'ont découvert un groupe de chercheurs du Canada, de France et de Guadeloupe. Les victimes exposées aux pesticides développent des fibroses dans le muscle cardiaque, c'est-à-dire des sortes de scarifications au niveau du cœur qui vont alors causer les maladies cardiaques. Ces lésions rendent le cœur plus sensible à l'arythmie cardiaque et donc à la fibrillation auriculaire qui est le type le plus courant d'arythmie. Et ce trouble du rythme cardiaque augmente notamment le risque d'accident vasculaire cérébral. Cette étude est donc la première à évaluer précisément l'impact du chlordécone sur le développement de maladies cardiovasculaires, y compris les arythmies cardiaques. Ce nouvel impact sur la santé cardiaque du chlordécone vient s'ajouter à la longue liste de maladies qu'il engendre chez l'homme, notamment le cancer de la prostate, des troubles de la fertilité et des anomalies fœtales et périnatales.
Les formalités concernant la navigation de plaisance vont être renforcées à compter du 1er septembre prochain. Elles s'effectueront désormais ces formalités sur Internet pour tous les bateaux qui entrent ou qui sortent des eaux territoriales françaises. Une évolution applicable dans tous les territoires ultramarins de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth. Une évolution tout à fait bienvenue. C'est en tout cas l'avis du plaisancier guadeloupéen Dominique Douge.
Je pense que c'est une bonne chose parce que la clearance aujourd'hui, telle qu'elle va être à partir du 1er septembre, va permettre de connaître la mobilité des bateaux parce que le secours en mer ne peut s'exercer que lorsqu'on a une connaissance quand même un petit peu prévention de ceux qui vont être sur l'eau. Donc pour moi, la clearance n'est pas une contrainte, c'est pour moi une meilleure manière d'organiser d'éventuels secours et puis de connaître un petit peu les déplacements des navires. Les anglophones et caribéens avaient une longueur d'avance sur nous, puisque ça fait des années maintenant, hein, plus de 10 ans qu'on fait les clearances par Internet pour toute la Caraïbe. Pour nous qui faisons beaucoup de tournois dans la Caraïbe, c'est important. Et on avait toujours cette contrainte d'être obligé d'aller quelque part pour faire valider la clearance qu'on faisait sur une clé avec Excel. Maintenant que la clearance sera entièrement informatisée, que pour la clearance française, que pour la clearance dans la Caraïbe, je pense que c'est une bonne chose.
Bon après-midi, Stéphane.
Merci,
à demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Très bon après-midi à vous aussi. Et à demain, on écoute la chanson Ropel à présent et le morceau Time Else. Elle se produit ce soir à Chicago, aux États-Unis.
Shifting at night.
chanteuse Ropel avec le morceau Time Heals pour refermer RFI Midi et ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à Benoît Almeras, à la rédaction en chef. Merci à Vincent Biteau, à la réalisation. Très bon après-midi à l'écoute de la Radio du Monde.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi tant d'avatars en réalité virtuelle ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Saviez-vous que le fait de s'incarner en génie, en Léonard de Vinci par exemple, booste notre créativité ? Que des patients sortant du coma apprennent à remarcher plus rapidement grâce à leur avatar ? Pour le meilleur comme pour le pire, jusqu'où nous entraînerons nos avatars ?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.